Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 21 novembre 2023. Avec vous, Eric Manelakidza. Voici d'abord le sommaire. Jojo Weah concède sa défaite tandis que son rival Joseph Boakai est déclaré vainqueur à la présidentielle au Liberia selon la commission électorale. Au Sénégal, le président Macky Sall appelle à préserver la stabilité du pays et soutient son premier ministre comme candidat de la majorité. Controverse politique au Tchad avant le référendum pour restaurer l'ordre constitutionnel, le poste maréchal Idriss Déby Itno.
Je demande à tous ceux qui veulent le changement de choisir le noir. C'est la bonne couleur pour exprimer le désarroi qui est le nôtre.
Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest s'affrontent violemment dans la région du lac Tchad, causant des craintes pour de nombreuses vies humaines. Rencontre à Cotonou sur la lutte contre le terrorisme au Bénin avec la participation du département d'État. La crise énergétique au Mali suscite l'indignation alors que les coupures d'électricité persistent.
Bon, si le courant là est coupé, tous mes travaux doivent s'arrêter. Depuis aujourd'hui même, depuis ce matin, le courant est coupé. C'est à 14h qu'il est venu.
La grève historique dans le secteur automobile américain se conclut avec l'accord sur les conventions collectives des principaux constructeurs. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président sortant du Liberia, George Weah, est salué pour son fair play en reconnaissant sa défaite à la présidentielle. Son challenger, Joseph Boakai, a été déclaré hier vainqueur par la commission électorale. Yacouba Ouédraogo.
Joseph Boakai l'emporte avec 50,64% des voix contre 49,36% pour George Weah, selon Davidetta Brown-Lansana, présidente de la commission électorale. Dès vendredi soir, l'ancienne gloire du foot a reconnu avoir perdu. Ce soir, la coalition pour le changement démocratique a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a dit George Weah à la radio, pressant ses supporters de suivre son exemple et d'accepter les résultats. Les Libériens ont démontré une fois de plus que la démocratie est vivante dans l'espace CEDEAO et que le changement par des voies pacifiques est possible, a réagi l'organisation ouest-africaine. Le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, parle d'un leadership hors du commun et la sportivité démocratique de M. Weah à un moment particulier de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest où la démocratie subit des assauts d'acteurs malfaisants déterminés à subvertir la volonté du peuple selon lui. Le département d'État américain a appelé tous les citoyens libériens à suivre l'exemple du président Weah et accepter les résultats de la présidentielle du 14 novembre.
Toujours au Liberia, une voiture a foncé hier soir sur une foule de supporters du vainqueur de la présidentielle, faisant au moins 10 victimes décédées selon le parti de l'unité, blessées selon la police. Des milliers de personnes ont assisté hier à Kisangani dans le centre nord de la RDC au premier meeting de campagne de Moïse Katumbi, un des poids lourds de l'opposition et candidat à la présidentielle du 20 décembre. Après l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo la veille, deux autres opposants, Seth Kikuni et Frank Diongo, ont annoncé leur retrait en faveur de Moïse Katumbi. Ce dernier émerge comme le candidat capable de conduire l'opposition vers la victoire, explique dans un communiqué les trois candidats qui l'ont rallié. Leader du parti Ensemble pour la République, M. Katumbi met en avant ses succès en affaires et son bilan au Katanga, avec construction de routes, d'écoles et développement de l'agriculture pour affirmer qu'il saura gérer le pays. Autre Martin Fayoulou qui affirmait que la victoire lui a été volée en 2018, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour son action en faveur des femmes violées, sont parmi les principaux candidats de l'opposition en lice. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits sont appelés à élire leur président, mais aussi voter aux législatives, aux élections provinciales et aux municipales. En fin de mandat en 2024, le président sénégalais Macky Sall souligne la nécessité pour son successeur de préserver la stabilité du pays, confirmant qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat. Il a désigné son premier ministre Amadou Ba comme candidat de sa coalition. John Lyndon.
Il faut préserver la stabilité du pays avant tout et par tous les moyens, malgré les assauts menés par certains aventuriers de la politique et malgré les volontés de déstabilisation, a estimé Macky Sall. Il faut absolument préserver cette stabilité en s'appuyant sur l'état de droit coûte que coûte, a-t-il précisé. Depuis 2 ans et demi, M. Sall fait face à une opposition sur le sort de l'opposant Ousmane Sonko. La mise en cause et la condamnation de celui-ci dans une affaire de mœurs ont engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait des dizaines de morts. Le gouvernement a dissous le parti de M. Sonko. Vendredi dernier, la Cour suprême du Sénégal a maintenu l'opposant Sonko hors des listes électorales, dont il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle l'an prochain. Ousmane Sonko, toujours en prison, a choisi son remplaçant, Bassirou Diomaye Faye, dans la course à la présidence.
Des combattants de Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest se sont affrontés violemment dans la région du lac Tchad, entraînant des craintes de pertes humaines parmi les miliciens anti-djihadistes et les habitants. Nani Tetalani.
Les combats ont eu lieu vendredi et samedi lorsque des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont tendu une embuscade à une flotte de bateaux de Boko Haram sur l'îlot de Kadunaroua dans le lac Tchad. 9 bateaux de Boko Haram et tous les combattants qui s'y trouvaient ont été coulés, a déclaré Ibrahim Limane, chef d'une milice d'autodéfense dans la région. En plus des combattants, plusieurs dizaines d'otages enlevés 2 semaines plus tôt étaient sur ces bateaux. Selon M. Limane et un autre chef de milice anti-djihadiste, Kadirou Abou, et des pêcheurs locaux, de nombreux otages ont été tués. Aucune information n'était disponible immédiatement auprès des autorités locales. En février et mars, les 2 factions de Boko Haram et de l'ISWAP se sont affrontées pour le contrôle des îles du lac Tchad. Chacune a perdu de nombreux partisans. Le conflit djihadiste a fait plus de 40 000 morts dans le nord-est du Nigeria et a entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes depuis 2009.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des employés du secteur automobile ont définitivement mis fin à une grève inédite suite à l'approbation des conventions collectives par les 3 grands constructeurs américains. Mohamedou Oumfa.
Après la grève historique de plus de 6 semaines qui a touché pour la première fois les 3 géants de l'automobile, les membres du syndicat United Auto Workers ont voté pour ratifier leur nouvelle convention collective, verrouillant des gains records, a annoncé le syndicat lundi dans un communiqué. Il précise que 64% des syndiqués des 3 groupes ont voté pour la ratification de ces conventions collectives de 4 ans. Le syndicat a obtenu le rétablissement des mesures d'adaptation au coût de la vie, supprimées lors du sauvetage du secteur après la crise de 2008, des hausses salariales substantielles et des milliards de dollars d'engagement en produits et en investissements, selon un communiqué de Sean Fenn, président du plus grand syndicat des travailleurs de l'automobile. De 3 usines employant 12 700 syndiqués au lancement de la grève le 15 septembre, les débrayages ont pris de l'ampleur au fil des semaines jusqu'à mobiliser davantage de sites et plus de 45 000 des 146 000 employés. Tous les grévistes ont repris le travail dès l'annonce des accords de principe fin octobre, sans attendre les ratifications comme c'est d'habitude l'usage. Désormais, nous retournons travailler comme une seule équipe, a dit Sean Fenn, directeur de Ford, indiquant un retour à la normale de la production dans les prochains jours.
La situation reste tendue ce mardi dans l'hôpital indonésien du nord de la bande de Gaza, secteur au cœur d'affrontements sanglants entre l'armée israélienne et le Hamas sur fond de négociations pour la libération d'otages en échange d'une trêve humanitaire. Nathalie Barche.
28 bébés prématurés évacués dimanche d'un hôpital de Gaza sont arrivés hier en Égypte. Au moins 12 patients et leurs proches ont été tués et des dizaines blessés dans une frappe israélienne sur un hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza, selon des responsables médicaux du Hamas. Environ 200 patients ont été évacués en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge. Il reste encore 400 personnes dans l'établissement. Des soignants jordaniens sont entrés dans la bande de Gaza où un hôpital de campagne doit être monté à Khan Younes. Le gouvernement du Hamas recense 31 000 blessés dans le territoire palestinien. La présidente de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, a rencontré au Qatar le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, afin d'avancer sur les questions humanitaires. Environ 240 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Les États-Unis et le Qatar, qui œuvrent à un accord pour les libérer en échange d'une trêve, ont fait état d'avancées dans les négociations.
La création d'un État palestinien est le meilleur moyen d'assurer la sécurité d'Israël, a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne après une réunion avec les 27 ministres des Affaires étrangères. Le président américain avait soutenu une solution à deux États.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Manit Talani.
Les pêcheurs du Sénégal sont pris dans le grand courant des migrations vers l'Europe parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, le poisson étant devenu trop rare sous l'effet de la surpêche, de la concurrence des armements industriels, de la pêche illégale et du réchauffement climatique. La pêche représente au Sénégal 3,2% du PIB, plus de 10% des exportations et jusqu'à 600 000 emplois, d'après le département américain de l'agriculture. La Banque mondiale prévoit de soutenir le Kenya avec 12 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Ces fonds devraient concerner les opérations de politique de développement et des nouveaux investissements des secteurs tels que l'énergie, la santé, les transports et l'eau. La banque se dit pleinement engagée à soutenir le Kenya dans son parcours pour devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Pour terminer, il manque plus de 3 millions de chauffeurs routiers à travers le monde et ce chiffre devrait doubler dans les 5 prochaines années, alerte l'Union internationale du transport routier. Elle demande au gouvernement de faciliter et d'accélérer la formation des jeunes au métier du transport routier en abaissant l'âge minimum d'entrée dans la profession, en finançant les formations et en encourageant la féminisation de la profession.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les rencontres de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique se poursuivent, n'est-ce pas?
Oui, plusieurs matchs au programme, dont Tanzanie, Maroc, Libye, Cameroun, le Niger reçoit la Zambie, l'Éthiopie fait face au Burkina Faso, les Lesotho jouent contre le Bénin. À suivre aussi le déplacement piège du Sénégal au Togo. Pour Amdinsi, consultant sportif, le Sénégal doit faire preuve de prudence.
C'est un déplacement piège pour les Lions de la Teranga qui tenteront quand même de reprendre la première place du groupe B, qui est occupé en ce moment par le Soudan, qui a battu quand même la RDC sur le score d'un but à zéro. Ils ont deux matchs, alors que le Sénégal a un match, comme vous le savez, le Sénégal a laminé le Soudan du Sud par 4-0. Il faut dire que c'est un autre adversaire d'un autre calibre qui attend les Lions du Sénégal. Et le match se joue à Kégué, donc ça s'annonce difficile, très difficile pour les Lions du Sénégal, surtout que les Togolais n'ont jamais perdu face au Sénégal à domicile. Au contraire, les Éperviers ont eu à battre quand même le Sénégal par 3-1. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Adebayo avait même réussi à se qualifier au nez et à la barbe de la génération dorée du Sénégal. Je vous parlais de Ella Diouf et de Kalidou Fadiga lors du Mondial 2006. Donc les Lions sont avertis. Ils vont vers un match très difficile à Kégué.
Amdinsi, consultant sportif. Hier, après son 9-0 infligé aux Seychelles, la Côte d'Ivoire a assuré devant la Gambie 2-0. Les Seychellois sont encore tombés cette fois-ci 0-5 devant le Kenya. Le Mali a concédé le match nul 1-1 face à la République centrafricaine au stade du 26 mars de Bamako. Les Tchadiens ont été battus par Madagascar 3-0. La Guinée-Bissau a battu Djibouti 1-0, même score en faveur de la Guinée équatoriale face au Libéria. Cette seconde journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prendra fin demain.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Certains candidats de l'opposition en RDC se sont retirés de la course présidentielle pour soutenir Moïse Katumbi. Cette alliance en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga survient au début de la campagne pour les élections générales du 20 décembre. Eddy Issango a joint à Kinshasa Augustin Matata Ponyo, ancien président ministre qui a rejoint le camp Katumbi.
Je ne suis pas le seul. Il y a déjà deux autres candidats qui se sont ralliés. Francis Diongo ainsi que Seth Kikuni qui se sont ajoutés aujourd'hui déjà à la liste. Et moi, je pense que chemin faisant, il y aura certainement d'autres candidats qui vont se rallier à ce groupe. Et voilà, donc c'est un début qui a commencé hier avec un parti, un chef du parti. Aujourd'hui, il y a deux partis qui ont suivi. Je suis convaincu que par les jours à venir, on aura d'autres candidats.
Et dans votre discours d'annonce, vous dénoncez les manœuvres qui sont faites pour que, de toutes les manières, les présidents qui sont en place restent au pouvoir et censés pouvoir faire basculer les choses avec tout ce que vous faites maintenant, ou vous y allez sans conviction?
Bon, écoutez, on n'y va pas sans conviction, on y va avec la volonté, la détermination de gagner, ça c'est clair.
Nous si les jeux étaient déjà faits d'avance.
Nous dénonçons à cela pour permettre effectivement d'atténuer la capacité de fraude et la capacité de corruption.
Vous étiez 5 représentés en Afrique du Sud, mais on sait que Martin Fayulu fait son chemin et hier le docteur Mukwege a annoncé qu'il n'y a pas encore eu en fait une conjonction de points de vue sur cette matière. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt aller dans un ordre dispersé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment en Afrique du Sud?
Celui de Martin Fayulu n'a pas donc siégé. Donc, les conclusions qui sont sorties sont les conclusions uniquement des 4 partis politiques. Voilà pourquoi, en soutenant le parti Ensemble et la candidature de Moïse Katumbi, j'ai demandé aux 2 autres partis, c'est-à-dire le parti en vol d'Eli Sesanga et les partis ou les groupements des docteurs Mukwege, de pouvoir suivre mon pas. Comme vous l'avez vu, le communiqué final a été signé uniquement par 4 partis politiques.
La campagne a commencé. Vous préparez pour faire jonction, aller tous, ou je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que là, vous annoncez quand la campagne électorale a commencé.
Oui, la campagne électorale a commencé hier. Et moi, j'ai annoncé mon désistement et mon ralliement et hier même. Donc, je le fais à temps opportun. Il y a déjà 2 partis qui sont ensemble. Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Ponyo. 2 partis viennent de se joindre aujourd'hui. On suppose que d'autres partis vont rejoindre sérieusement, vous le savez, jusqu'à la dernière journée des campagnes. D'autres partis, d'autres groupements politiques peuvent toujours rejoindre les camps de l'opposition, les camps du peuple.
Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre congolais, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Tchad se prépare activement pour un référendum conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain de 2022. Ce référendum prévu pour déterminer la forme de l'État pour les élections de 2024 vise à rétablir l'ordre constitutionnel suite au décès du maréchal Idriss Déby Itno et déclenche le début de la campagne électorale le 25 novembre prochain. Cependant, il ne suscite pas un consensus unanime au sein du milieu politique. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Trois tendances se dégagent. Les partisans de l'État unitaire, au rang duquel le parti de l'actuel premier ministre de transition appelle le peuple tchadien à voter oui. Célestin Toponan est le premier vice-président de l'UNDR, le parti de Saleh Kebzabo.
Nous venons de finir une grande tournée sur l'ensemble du territoire où nous avons donné les raisons pour lesquelles nous allons nous mobiliser pour demander à la population de voter oui. Parce que nous pensons que c'est la seule façon de sauver l'unité du Tchad.
Les fédéralistes constituent la deuxième tendance. Ils appellent à voter non pour ce projet de loi fondamentale.
Nous, on va au référendum pour demander à la population de voter non. Parce que quand on vous présente une chose, c'est une imposition, c'est à prendre ou à laisser. Mais nous, nous ne prenons pas le blanc qu'ils nous proposent pour leur constitution.
Bayana Yoyana est le porte-parole du Bloc fédéral. Pour lui, le Tchad est bel et bien dans le noir à tous les niveaux.
Je demande à tous ceux qui veulent le changement de choisir le noir. C'est la bonne couleur pour exprimer le désarroi qui est le nôtre. Le noir est le symbole aussi du deuil. Les Tchadiens pleurent. Cette belle couleur nous rappelle beaucoup de choses négatives de l'État unitaire.
La troisième tendance pense qu'en participant à ce référendum, c'est une manière de cautionner la légitimation du pouvoir dynastique en place et appelle au boycott pur et simple de ce référendum. C'est le cas de l'ancien premier ministre de transition, par ailleurs président du parti RNDT Le Réveil, Albert Paimi Padake. Il lance une ville morte le 17 décembre, date du scrutin. Car, justifie-t-il, l'organe chargé d'organiser ce référendum n'est ni impartial ni indépendant et donc une structure anticonstitutionnelle.
Le gouvernement s'enfonce, tête baissée, vers un référendum à crédibilité impossible, en bafouant les principes de transparence et d'équité, en violation des dispositions pertinentes de la loi fondamentale du pays, en son article 7, charte de transition renouvelée. RNDT Le Réveil appelle au boycott du référendum, appelle à une ville morte, je dirais plutôt à un bureau de vote mort. Le 17 décembre 2023.
Le professeur de droit et ancien ministre de la Justice, Ahmad Mohamed Hassan, donne un avis contraire sur ce processus en cours.
La forme de l'État a été déjà choisie par le dialogue national inclusif qui avait demandé à ce que la future constitution, dans sa rédaction, doit s'inspirer de la constitution de 1996 qui instaurait la forme de l'État unitaire décentralisé. Donc il ne s'agit pas d'un référendum sur la forme de l'État. Et le dialogue a conclu en disant qu'il fallait s'inspirer de la constitution de 1996 et que le même dialogue a prévu un référendum couplé. Or, le gouvernement ne propose qu'une seule version de la forme de l'État, la forme unitaire décentralisée. C'est un référendum sur un seul choix à prendre ou à laisser. Dans tous les cas, la forme de l'État n'est pas la solution au Tchad. Il faut que les Tchadiens trouvent la meilleure forme de dévolution du pouvoir au niveau central qui puisse les rassurer tous dans l'égalité citoyenne et républicaine.
Pour certains observateurs politiques avertis, c'est un référendum à haut risque puisque la bataille va être rude entre les partisans de l'État unitaire décentralisé et les fédéralistes. André Kordoma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Njamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le groupe de réflexion Afrique de la coalition mondiale contre Daesh s'est réuni à Cotonou avec ses partenaires pour discuter des mesures de lutte contre le terrorisme grandissant dans le nord du Bénin depuis 2021, soulignant ainsi la détermination des autorités béninoises à vaincre le terrorisme. Parmi les participants figurait un représentant du département d'État américain. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
C'est Yann McCurry, l'envoyé spécial adjoint du département d'État des États-Unis auprès de la coalition qui a livré à la presse les détails de la rencontre du groupe de réflexion Afrique de la coalition mondiale contre Daesh. Selon lui, les 21 pays et 3 organisations internationales qui ont participé à cette réunion sont plus que jamais mobilisés pour bouter le terrorisme hors de l'Afrique subsaharienne.
Notre plan d'action est divisé en 4 parties. La première partie du plan d'action, c'est de coordonner les efforts pour renforcer les capacités. 1. En matière de sécurité des frontières. 2. Pour la collecte biométrique. Et parlant de la collecte biométrique, c'est pour aider à identifier et prévenir les mouvements des terroristes. Et numéro 3, également renforcer les capacités pour l'exploitation des preuves
sur le champ de bataille.
C'est en 2022 que le Bénin a décidé de rejoindre la coalition mondiale contre Daesh devant la fréquence des attaques terroristes dans le nord du pays. La réunion de Cotonou a eu lieu quelques mois après celle de Niamey, dont les objectifs étaient la mobilisation des compétences contre le djihadisme. Les Béninois attendent beaucoup de ce groupe de réflexion pour la sécurité au niveau des frontières et dans les coins reculés.
Il faudrait que, véritablement, on ait des résultats tangibles qui puissent permettre de marquer, mettons, le processus qui est déjà engagé en termes de déradicalisation, en termes d'assèchement des sources de financement du terrorisme. Que la coopération au niveau régional et international puisse produire ses fruits. L'initiative d'Accra devrait être amplifiée à long terme.
Lors de son point de presse, l'envoyé spécial a souligné que la coalition a des objectifs bien définis et entend marquer qualitativement la lutte contre le terrorisme en accompagnant les mesures déjà mises en place par les pays dont le Bénin pour lutter contre un ennemi commun.
Alors, cette coalition globale s'intéresse beaucoup à ce qui se passe, à la situation sécuritaire en Syrie, en Irak, en Asie centrale, mais également il y a de plus en plus un intérêt qui monte et qui se focalise sur la sécurité en Afrique, particulièrement ce qui se passe dans le Sahel.
La seule chose que les Béninois savaient du terrorisme leur était rapportée par les médias. Mais depuis, les attaques se sont multipliées avec des conséquences tant sur le plan humain que matériel. En plus de la coalition mondiale contre Daesh, les autorités béninoises ont également scellé quelques partenariats sur le plan militaire afin de se donner assez de ressources contre le terrorisme. De Cotonou, Jeanette Fladonné pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Mali connaît une grave crise de l'électricité qui, selon les analystes, pourrait avoir des conséquences désastreuses. La population exprime son mécontentement face aux coupures fréquentes de l'électricité. Annie Reisenberg fait le point depuis Bamako. Le récit avec Michel Claire-Joseph.
Mohamed Kanté est menuisier depuis l'âge de 20 ans. Ces derniers mois, son atelier, qui d'habitude bourdonne avec le bruit de ses nombreux outils, est resté silencieux à cause des pires coupures d'électricité. Les générateurs électriques sont hors de portée pour la majorité de la population malienne, même pour des travailleurs qualifiés comme Kanté.
Bon, si le courant là est coupé, tous mes travaux doivent s'arrêter. Depuis aujourd'hui même, depuis ce matin, le courant est coupé. C'est à 14h qu'il est venu. Alors qu'on a beaucoup de matériel ici, qu'on doit livrer ça aujourd'hui.
Modibo Mao Makalou, économiste et ancien conseiller économique à la présidence, estime que les conséquences des coupures d'électricité sont énormes. C'est d'autant plus vrai dans un pays comme le Mali, où 98% des entreprises comme la menuiserie de Kanté font partie du secteur informel.
Dépendant de la fréquence de coupure, on peut évaluer les dégâts causés par les coupures en 2% et 5% de perte de points au niveau du produit intérieur brut.
Le gouvernement promet que la situation va s'améliorer, sans jamais dire ce qu'il va faire pour remédier à la situation. Pour Amadi Diko, la question va plus loin que la simple fourniture d'électricité. Il considère l'accès à l'électricité et aux autres services de base comme un baromètre de la justice sociale. Monsieur Diko a fait partie du mouvement d'opposition M5 qui a organisé des manifestations massives avant le coup d'État d'août 2020. Le mécontentement à l'égard du gouvernement s'est répandu après la mort de manifestants tués par balles peu avant le coup de force. Amadi Diko affirme qu'il va continuer à réclamer la bonne gouvernance, quel que soit le pouvoir en place.
Quand on confie le pouvoir à quelqu'un, on doit le contrôler. On doit veiller à ce que les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple malien, nous devons veiller à cela. C'est ça notre rôle en tant que leader de la société civile.
Amadi Diko et d'autres militants ont voulu organiser une marche pour demander une solution à la crise de l'électricité. Invoquant des problèmes de sécurité, la junte a interdit la manifestation. L'organisateur de la marche a été arrêté et reste en détention.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manila-Kidza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Michel Claire Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.